Et sur les jeux extérieurs de la cour de l'école maternelle, je ne vais pas revenir dessus, je l'ai déjà développé quand on a parlé de la subvention tout à l'heure.
Autre information, donc le permis de construire de l'école de musique a été accepté et l'appel d'offres commence le 15 février pour donc une mise en route assez rapidement maintenant de cette école de musique. On attendait qu'elle soit livrée au mois d'octobre, septembre-octobre, peut-être novembre, je ne sais pas, si encore on prend du retard avec les matériaux, enfin, etc. On verra bien. Donc là, l'école de musique va très très vite démarrer. École de musique, je vous le rappelle, derrière le Dévézou, hein, juste là derrière la scène. Ensuite, le départ de Pascal Sorbe. Donc Pascal Sorbe, c'est notre secrétaire de mairie. Notre secrétaire de mairie nous quitte après 40 années de bons et loyaux services à la mairie. Donc elle a fait toute sa carrière à la mairie de Montfermeil. Et donc bah, ça va être difficile, douloureux de voir partir Pascal, parce que c'est quand même la mémoire. La mémoire de la mairie. Moi, chaque fois que j'ai une question à lui poser, une question à laquelle je n'ai pas de réponse, Pascal me donne la réponse. Elle connaît tous les Montferriérains, tous les gens qui habitent dans les maisons, les enfants, les petits-enfants, les conjoints, enfin bon, elle sait tout. Donc c'est vrai que bon, voilà, elle a rendu énormément de services à la mairie, elle a été très professionnelle et bon, ben voilà, 40 ans de bons et loyaux services, elle a aussi le droit de prendre la retraite. Donc aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes en phase de recrutement d'une secrétaire de mairie et normalement, Madame Sorbe part début mars. Alors on n'a pas encore fixé la date exacte, mais normalement elle part début mars. Et nous avons eu cinq candidatures que nous sommes en train de recevoir et voilà, et nous avançons au travers de différents jurys. On a choisi plusieurs jurys et on reçoit les candidates voilà, au fur et à mesure. Voilà. Donc, à partir de début mars, on n'aura plus personne.
Est-ce que, malgré les contraintes, on pourra fêter son départ?
Alors, elle ne veut pas. Elle ne veut pas, il était logique de lui faire une fête. Il était logique de lui faire une fête, elle ne veut pas du tout de fête. Alors je pense que malgré son non-vouloir, on organisera, je pense, au moins, on fera tous les élus, on fera avec l'administratif, les filles qui ont toujours travaillé avec elle, on fera un petit pot à midi, on partagera voilà, une coupe de champagne et puis quelques petits fours pour voilà, la remercier et faire un petit cadeau de départ. Mais elle ne veut rien d'officiel avec tout le monde, etc. Elle ne veut pas en entendre parler. Vous savez, Pascal a un sacré caractère et donc elle a dit non, c'est non. Donc on lui fera la surprise, mais donc je vous demande d'être discret, de ne pas en parler et puis on va trouver un midi. Où voilà, on décidera, je vous enverrai un mail, on sera sur Non, mais c'est enregistré, mais c'est pas grave, elle n'écoute pas Pascal. Elle n'écoute pas, elle n'est pas Montferrière, elle n'habite pas Montferrier, donc les conseils municipaux ne l'écoutent pas.
Il y a le midi libre là, il y a le midi libre.
Monsieur le midi libre, vous êtes prié de ne rien dire. Ensuite, la déchetterie. Voilà aussi encore un programme. La déchetterie va se refaire une beauté, comme je l'ai déjà dit. Et donc, elle est censée commencer au mois de ben, début mars 2022 et se finir début septembre 2022. Donc, la métropole a décidé de revoir toutes ces déchetteries et de refaire, de les remettre toutes aux normes. Donc, par exemple, chez nous, on va avoir 8 quais qui vont être mis aux normes. On va avoir de la vidéoprotection et une alarme anti-intrusive qui va être mise. On va avoir des nouvelles clôtures qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui, beaucoup plus costaudes, beaucoup plus hautes et beaucoup plus difficiles à franchir. Donc voilà, je pense qu'on va. Elle en a besoin, notre déchetterie quand même. Alors, bon, ça n'a rien à voir avec la déchetterie qui est à côté du zoo, mais quand même, elle en a besoin. Donc voilà, ça va durer de mars à septembre et ça aura un coût pour la métropole de 300 000 euros hein, quand même.
Elle reste ouverte pour l'instant quand même?
Ah non, non, non. La déchetterie est fermée et donc nous sommes. Donc il n'y a plus de déchetterie pendant de mars à septembre et nous sommes renvoyés sur Castelnau-le-Cresse. Castelnau-le-Cresse Et le zoo. Voilà. Donc, je vous conseille pas le zoo, hein, parce que franchement, elle est toute petite, c'est compliqué. Bon. Donc, Castelnau, elle est nouvelle, justement.
Et Gravel est très bien.
Et alors, moi, j'en ai parlé de Gravel à la métropole, mais ils préfèrent nous renvoyer plutôt sur l'ouest, sur l'est que sur l'ouest.
Et on ira sans le leur dire.
Exactement. Donc voilà, le Cresse, Castelnau, Gravel et le zoo. Voilà, donc à partir de septembre, nouvelle déchetterie. Donc on va avoir pas mal de travaux hein, pendant les mois à venir dans ce coin-là. On aura la déchetterie, on aura le pont du Cresse. Donc, et après, tout en bas, le rond-point de chez Quincan. Alors après, je vais parler donc du point, je finirai par la ZFE, je vais parler du point que voulait que l'on rajoute M. Bourrelli. Donc c'est le point sur le terrain qui se situe en face du chemin des Aiguillères. Quand vous sortez du chemin des Aiguillères sur l'allée des Platanes, en face de vous, vous avez un terrain vierge qui appartient, bon, pas nommé à M. Breton, hein, voilà. Et derrière, vous avez un grand terrain et tout a été aujourd'hui débroussaillé et il m'a semblé voir en tous les cas ce matin en passant que ça avait été piqué, donc je pense qu'il y a un géomètre qui est passé. Voilà, aujourd'hui, donc ce terrain, nous n'avons reçu aucune DIA. Donc pour l'instant, voilà, c'est les gens travaillent avec M. Breton, peut-être un promoteur. Donc Michel, tu voulais
qu'on
mette ça.
Oui, je voulais le mettre, bon, parce que d'une part, je voulais avoir des informations. En fait, je les ai eues en commission d'urbanisme, mais je tenais quand même à en parler pour que tout le monde soit au courant qu'il y a peut-être une possibilité. Non seulement, il ne faut pas laisser le promoteur faire ce qu'il veut, ça c'est la première chose.
Hein, est-ce qu'on a l'habitude de laisser les promoteurs faire ce qu'ils veulent ?
Je regrette par exemple que sur le lotissement du Purge de Bayos, il y a eu 28 villas construites sans un seul logement social.
Mais
on le regrette tous.
Monsieur Bourrelli, c'est l'ancienne tendature.
Ah oui, mais d'accord. Bon, on est d'accord. Plus sérieusement, il y a le long de l'ensemble de ces terrains un petit ruisseau qui, à notre avis, pourrait très bien devenir un cheminement piétonnier qui ne gênerait personne. C'est un ruisseau qui, côté allée des Platanes, est relativement étroit, mais une personne peut y passer sans difficulté, et qui atterrit derrière la maison de Fourric.
Sur le mas de l'huile.
Voilà, sur le chemin du mas de l'huile. Donc là, il y aurait vraiment la possibilité de faire un chemin piétonnier, mais je ne sais pas du tout quelles sont les contraintes, c'est simplement au vu des plans et des parcelles cadastrales signalées, qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être cette possibilité. Maintenant, je ne sais pas si c'est faisable, et donc peut-être ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait négocier aussi avec le promoteur.
Alors j'ai, hier après-midi, donc Jean-Pierre est venu m'en parler, donc immédiatement j'ai trouvé que l'idée était très bonne, et immédiatement j'ai contacté la métropole et le service Paul Vallée-Dulaise pour savoir ce qui était possible de faire sur un ruisseau. Et j'ai eu la réponse ce matin, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Pourquoi ? Parce qu'il est déclaré comme ruisseau et non pas comme fossé. À partir du moment où il est déclaré comme ruisseau, il faut qu'il soit accessible à 100%. Donc, moi, je leur ai dit, mais pourquoi ? Alors, il faut qu'il soit accessible à 100% pour permettre à l'eau de s'évacuer. Alors, ça m'a bien fait rire. Je leur ai dit que, en tous les cas, depuis 2 ans que nous étions en responsabilité, je n'ai jamais vu de nettoiement de ce fossé. Enfin, fossé, de ce ruisseau. Donc aujourd'hui, si on doit avoir des pluies torrentielles, je pense qu'il y aura un problème au niveau de ce ruisseau. Donc je leur ai dit, déjà, il faudrait peut-être venir le nettoyer. Deuxièmement, est-ce qu'il n'est pas possible sur ce ruisseau de mettre un plancher en bois qui laisse s'écouler l'eau et qu'on puisse enlever quand on doit faire une intervention ? Ça s'est refusé par la métropole. Donc aujourd'hui, ils m'ont quand même dit qu'ils allaient se rapprocher du service hydraulique et voir s'il n'y aurait pas éventuellement une possibilité de faire quelque chose. Mais ils m'ont dit, ils pensent que non, mais ils vont quand même regarder au niveau hydraulique, s'il y a une possibilité de faire. Après, j'ai regardé aussi le cadastre au niveau de ces parcelles, et j'ai vu qu'on pouvait rejoindre le chemin de la qualité aussi. Mais pour rejoindre le chemin de la qualité, on est obligé d'impacter un propriétaire, c'est-à-dire son allée pour aller à sa parcelle, donc l'allée qui part du chemin de la qualité jusqu'à sa parcelle. Et ensuite, j'ai regardé, j'ai mesuré, elle fait 4,65 m de large, hein, cette allée, sur 89 mètres de long. Et la parcelle en elle-même, il faudrait prendre la continuité, donc prendre à peu près 4 mètres sur la parcelle pour sortir sur cette nouvelle parcelle avec ce nouveau lotissement. Bon, ça m'ennuie un petit peu d'aller impacter une parcelle chez quelqu'un.
Oui.
Une question, toujours dans le cadre de ce sujet.
Je voudrais juste compléter sur ce point-là. Ça reprend la suite, effectivement, du cheminement piétonnier, enfin du douloureux dossier du cheminement piétonnier entre les aiguillères et les écoles. Donc moi, je...
complètement pareil.
Non, c'est pas complètement pareil, je suis d'accord. Ouais. Mais la nécessité d'un passage piétonnier entre pour désenclaver ces deux ensembles, ça semble important. Donc je pense qu'il faudrait quand même inciter fortement la métropole à si aucune de ces deux solutions ne peut aboutir, puisque la première est assez bloquée, et la seconde, visiblement, n'est pas faisable, peut-être qu'ils réfléchissent de façon plus importante sur la possibilité d'ouvrir un passage piétonnier entre ces deux rues.
Ils ont beaucoup réfléchi, hein, déjà, sur l'ancien emplacement réservé entre le chemin de la qualité et l'allée des platanes. Hein. Ils l'ont quand même beaucoup regardé, hein, ça. Ils l'ont travaillé. Ils ont même fait des plans et tout ça. Hein. Ils ont même envisagé une autre solution. Enfin bon, c'est...
Mais n'existe-t-il pas un chemin piétonnier qui a été obstrué, maintenant qui est obstrué
par un pont
entre l'allée des platanes et donc les écoles.
C'est de celui-là dont on parle.
Et là, on ne peut pas...
Ben justement, parce que nous, on l'a immédiatement relancé, hein, au mois d'avril l'année dernière, avec la métropole, on leur a parlé de ce chemin parce qu'on avait des réservations, donc il fallait voir si on pouvait pas en faire quelque chose, voilà. Donc ça, c'est problématique, d'autant plus que aujourd'hui, pour faire un chemin piéton, il y a beaucoup de réglementaires, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un chemin d'un mètre de large. On pourrait se contenter de dire bon ben c'est juste un passage voilà, ponctuel, c'est juste pour aller à l'école, on n'a pas besoin de faire. Mais non, aujourd'hui, la métropole est vraiment très à cheval. Un trottoir, c'est tant une piste cyclable, c'est tant un chemin piéton, c'est tant. Et donc du coup, cette réservation, cet emplacement réservé qu'on a qui fait ce contournement du chemin de la qualité à l'année du platane, il traverse des propriétés, mais c'est un emplacement réservé que vous ne pouvez pas élargir. À un moment donné, d'ailleurs, on arrive complètement dans une propriété. L'emplacement réservé se finit dans la propriété. Donc, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé. Monsieur Guédan, d'ailleurs, était présent à ces réunions. C'est vrai que bon, c'est pas facile. Mais moi, je voudrais un peu quand même insister sur le côté hydraulique, là, et voir si on ne peut pas faire quelque chose. Parce que c'est vrai que ça serait assez rapide. On sortirait mon chemin du masse de l'huile, bon c'est pas mal, ça éviterait ce passage aller des platanes, chemin neuf qui n'est pas évident, donc ça nous permettrait d'arriver directement sur la place des Grèces finalement, et après bon aller à l'école, donc voilà, il faudrait vraiment, je vais pas lâcher l'affaire.
Pour te donner des arguments, si jamais, parce que tu parles de largeur de chemin piétonnier, si jamais ce n'est pas possible dans le tout début du chemin piétonnier, parce qu'il est entre deux maisons et que ça fait à peine un mètre, je crois, on peut tout à fait envisager, puisqu'il y a un projet en cours, de passer sur le terrain actuel de Breton, qui sera la voie d'accès, de faire un chemin là, qui longerait le terrain et qui rejoindrait le reste du horizon. C'est faisable.
Mais ça, je pense que c'est très tout à fait faisable, hein, ça. Ah, bon. Puisque ça sera une voie pour rentrer dans le lotissement. Donc on peut très bien sur cette voie garder une partie piéton. Donc franchement, je pense qu'il n'y aura pas de... Mais on sera très vigilant là-dessus, hein, c'est certain.
Oui. Oui, je voulais également intervenir. Effectivement, nous sommes favorables pour que ce ruisseau puisse devenir un chemin piéton. C'est un sujet qu'on allait aborder pendant la campagne électorale. Puisqu'effectivement, on rejoint le chemin des Aiguillères, l'allée des Platanes, et face à la crèche. Donc c'est quand même très pratique, au niveau piéton, bien sûr. Donc ça, c'est d'autant plus. Alors, j'ai insisté auprès des Frédéric plusieurs fois, d'autant plus que vous savez combien le cheminement de l'allée des Platanes, chemin des Aiguillères, via l'esplanade des Aiguillères est dangereux. Alors j'ai pu constater que les gens de la métropole étaient venus consulter la dernièrement pour peut-être aménager cette rue, ce cheminement, notamment, je le dis, de l'esplanade jusqu'à l'allée des Platanes, parce que les enfants passent, les mamans avec des poussettes, les personnes âgées, etc. Et donc, le virage, notamment, aller des Platanes, le chemin des Aiguillères, est hyper dangereux. Les gens descendent très vite et tournent, et s'il y a quelqu'un qui passe, il n'y a pas de trottoir en face, il n'y a rien, on ne peut pas appeler ce qui est en face un trottoir. Il y a une bordure le long des maisons, mais il n'y a pas de trottoir. Donc, j'insiste pour que cet aménagement soit fait, parce que personnellement, je vois beaucoup d'enfants qui jouent sur l'esplanade des Aiguillères, ça va de soi, et très souvent, ils arrivent sur le chemin des Aiguillères, et voilà. Et alors, en plus, s'ajoute à cela, alors là, il faudrait regarder la police municipale, mais bien qu'il y ait un parking qui longe les maisons pour aller à la maison de retraite, nombre de personnes se garent sur le chemin des Aiguillères, dans cette portion. Et même dernièrement, en camion, alors très gros camion, j'espère qu'il ne va pas continuer à se garer là, mais ça rétrécit d'autant plus l'accessibilité à l'esplanade des Aiguillères. Donc il faudrait demander à la police de veiller à ce que les voitures ne se garent pas sur cette rue qui est très fréquentée, bien sûr, à pied, notamment par des personnes jeunes et âgées, et qui n'est pas assez en sens sécurisé. Merci.
Ok. Dernier point, donc, la ZFE, zone à faible émission. Donc, je suppose que vous avez tous entendu parler de ce projet de la métropole, qui est un gros projet, puisque la métropole veut, en 2028, à ce qu'il n'y ait plus de diesel du tout dans la métropole. Donc, elle met ça en place petit à petit. Donc, à partir du 1er juillet 2022, il y a quelques communes dans lesquelles vous aurez des véhicules qui auront la vignette 5 qui seront interdits. Donc, ces communes, c'est bien sûr Montpellier, c'est Castelnau, c'est Villeneuve-les-Maglones, c'est Jacou, c'est Clapier, c'est le Crest-sur-Port, enfin bon, il y en a quelques-unes. Je vous ai ramené ce document, je ne sais pas si vous l'avez.
Oui, voilà. Oui, dans les boîtes.
Vous l'avez dans les boîtes, donc c'est parfait. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Dedans, vous avez toute l'explication de la ZFE.
Oui, je voudrais juste préciser quand même que c'est une obligation nationale, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté des élus de la métropole de faire ça, mais c'est une obligation nationale qui concerne 35 ou 36 communes, les métropoles et d'autres communes importantes qui sont...
Alors là, les métropoles, elles y sont, hein. Vous avez Rouen, le Grand Paris, Strasbourg, Lyon, Grenoble, Nice, Toulon, Aix-Marseille, Toulouse et Montpellier. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir qu'on achète nos vignettes de critère R. Donc ça, c'est l'achat des vignettes, ça sera uniquement sur...
Sur Internet.
Sur Internet, uniquement.
C'est pour 3,67 €.
Donc c'est vraiment pas cher. Cette vignette, bon, elle est en fonction de la date d'achat de voiture, elle est en fonction de voiture diesel ou voiture essence. Et donc, vous avez le tableau dans lequel on vous explique à partir du 1er juillet 2022, les voitures particulières, donc jusqu'à la vignette 5, pourront circuler. À partir du 1er janvier 2023, les voitures qui auront la vignette 5 ne pourront plus circuler dans la zone qui est déterminée de ces communes. Hein. Après, il va y avoir des axes dérogatoires, donc des axes sur lesquels pourront circuler ces véhicules. Par exemple les autoroutes, par exemple la MD65 qui passe devant chez nous, l'avenue des Moulins, enfin voilà, différents gros axes. Ensuite, vous allez avoir, à chaque année, vous allez avoir une diminution de vignettes en fonction pour les voitures, pour les deux roues, pour les camions et pour les utilitaires. Voilà. Donc ça, il faut quand même bien en être conscient et commencer déjà à réfléchir à vos voitures, hein. Pour ne pas être impacté. Ensuite, il y a des aides de l'État qui sont accordées. Hein. Donc, dans les aides, vous avez le bonus écologique, 6 000 euros si vous achetez une voiture électrique. Vous avez la prime à la conversion, c'est-à-dire que c'est une prime qui s'élève, qui va jusqu'à 3 000 euros pour l'achat d'un véhicule thermique neuf ou d'occasion et jusqu'à 5 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride. Vous avez la prime au rétrofit. Qu'est-ce que c'est le rétrofit? C'est lorsque vous avez des voitures thermiques et vous enlevez le moteur thermique et vous y mettez un moteur électrique en conservant l'habitat. Donc là, il y a aussi une prime pour ce qu'ils appellent une prime pour rétrofit électrique. Et ensuite, il y a des aides qui vont être réservées, bien sûr, aux professionnels. Parce que moi, ce que je crains, c'est les professionnels. Hein. On va quand même les impacter, les petits artisans qui ont des véhicules, diesel et qui ne peuvent pas changer leur véhicule. C'est problématique. Voilà.
Moi, j'espère seulement que, parce qu'on dit que l'écologie sans le social, ça ne sert à rien, mais c'est hyper dangereux. Là, j'espère que ces annonces-là vont être accompagnées d'annonces sur le plan social, et pas simplement ces aides-là dont il est question là, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer sur ça, même avec les aides en question. Donc ça va mettre en difficulté, s'il n'y a pas d'aide sociale, ça va mettre en difficulté énormément de gens sur le territoire de la métropole.
D'accord,
une question.
Les professionnels, déjà le passage, comment ils font?
Exactement. Là, par exemple, vous verrez, vous avez un exemple qui est donné. J'habite à Vendargue. Écoutez, j'habite à Vendargue et je travaille à Saint-Jean-de-Védas.
Ouais.
Je suis propriétaire d'une voiture diesel immatriculée en 2007, équivalent à une vignette critère 3. À la ligne voiture particulière, je constate qu'à partir du 1er janvier 2025, les vignettes 3 ne seront plus autorisées à circuler dans la ZFE. Je pourrais continuer à circuler avec ce véhicule dans Vendargue, puisque Vendargue est en dehors des premières communes de la phase 1. Par contre, je ne pourrais plus me rendre au travail à Saint-Jean-de-Védas.
Oui.
Il s'arrangera avec quelqu'un d'autre pour qu'il aura un véhicule qui pourra l'emmener à Saint-Jean-de-Védas. Mais bien sûr que ça va.
L'artisan qui a un véhicule, enfin moi je parle pour moi, l'artisan qui a un véhicule, il demandera à une autre entreprise de lui prêter un véhicule électrique. Et les camions électriques, c'est pas donné.
Ah non, et ce n'est pas donné surtout. Et c'est pas donné.
Après, il y a des aides, on est d'accord.
Oui, mais enfin, les aides, ça ne te permettra pas de t'acheter un camion électrique. Alors après, il y a des exceptions. Alors, il y a des dérogations, justement, c'est ce que je vois. Les véhicules de collection. Et certains véhicules professionnels, mais pour l'instant, ils sont en train de réfléchir à la liste qu'ils vont donner. On va voir. Et ensuite, il y a ce qu'ils appellent les petits rouleurs, c'est-à-dire les gens qui prennent leur voiture juste pour aller chercher le pain ou juste pour accompagner l'enfant au club de je sais pas quoi, voilà. Donc ça, les petits rouleurs seront des gens qui auront droit à une dérogation. Mais ceux qui prennent leur voiture pour traverser la zone concernée, ça va être problématique. Voilà les informations. Maintenant, nous allons passer aux questions diverses. Et donc, je vais laisser M. Borg s'exprimer.
Question. Le congrès des maires et la MF. Lors du conseil municipal dernier, le 25 novembre, face à notre demande concernant le congrès des maires, vous avez indiqué que les frais d'inscription avaient été invités au budget communal. Nous sommes renseignés auprès de la préfecture et le service chargé du contrôle de la légalité nous a répondu en date du 2 décembre 2021. Concernant l'adhésion de la commune de Montferré-sur-Lèze à la MRF, après vérification, il semblerait que votre conseil municipal a bien délégué à votre maire, au titre de l'article L 2122-22 du CGCT, la compétence afin de renouveler l'adhésion aux associations. Effectivement, lors du conseil municipal du 5 juillet 2020, un des premiers que nous avons eu, nous avons voté le point 2, délégation consentie au maire par le conseil municipal, 19e et 20e point. d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Nouvellement élue, nous avions alors promis de demander quelles étaient ces associations dont l'adhésion était renouvelée. Nous demandons donc aujourd'hui quelles associations sont concernées par ce renouvellement et quels sont les montants des adhésions pour chacune d'elles.
Je vais vous rassurer, M. Bord, nous n'avons pas d'adhésion à des associations en nombre excessif. Nous adhérons en tant que commune à deux associations. La première, c'est la MF34 pour la somme de 744 euros par an. Et nous adhérons à bénévolement, c'est-à-dire que nous ne sommes pas obligés d'adhérer, mais nous y adhérons quand même, à l'association départementale des comités des feux et forêts pour la somme de 285 euros par an. Ce sont les deux seules associations auxquelles la commune cotise.
Merci. Non, deuxième question concerne le conseil métropolitain. Madame la maire, vous êtes la seule conseillère de la commune de Montferré au conseil métropolitain. Lors du dernier conseil métropolitain, mardi 25 janvier 2022, portant sur le budget, plusieurs points portés sur la vallée du Lèze. Donc, à Marvoirie, vallée du Lèze, environnement, vallée du Lèze, aménagement, vallée du Lèze. Question, c'est pourriez-vous nous dire si cela concernait notre commune plus particulièrement et si oui, en quoi précisément? Merci.
Alors, au cours du conseil métropolitain du 25 janvier, au niveau du budget, ce sont des sommes qui ont été allouées au pôle vallée du Lèze. Pôle vallée du Lèze, c'est 6 communes, c'est-à-dire Jacou, Clapier, Le Crès, Prades, nous et Castelnau. Nous sommes les 6 communes du pôle vallée du Lèze. Donc dans ce budget, ces opérations concernaient l'ensemble donc, de ces 6 communes. Ça représente pour chaque opération, c'est-à-dire l'opération aménagement du Lèze, voirie du Lèze et environnement du Lèze, ce sont des crédits qui ont été cumulés depuis la mise en place de ces autorisations de programme, parce que ce sont des autorisations de programme. Ces autorisations de programme ont été mises en place en 2016. Et ces autorisations devaient se dérouler de 2016 à 2022. Nous arrivons en 2022, nous avons donc des crédits là-dessus, sur ces opérations. Donc dans tout ce qui est aménagement, il y a des choses bien sûr qui concernent la commune, qui concernent les 6 communes, mais qui concernent la commune de Montferrier, par exemple l'éclairage. Aujourd'hui, nous avons un remplacement de l'éclairage public dans la commune qui est assez important, puisque nous arrivons quasiment à la fin du remplacement de tous les candélabres à boules de la commune. Bon, mais ça, c'est la métropole qui paye, et ça fait partie de ces autorisations de programme qui ont été données en 2016 et qui vont bientôt être terminées sur l'année 2022. Dans l'aménagement, vous avez aussi les espaces verts, vous avez aussi les extensions de réseau pour Enedis. Donc ça, c'est pour l'aménagement du Vallée du Lèze. Ensuite, au niveau voirie, Vallée du Lèze, ce qui concerne la commune de Montferrier, c'est bien entendu le pont du Lèze. Les travaux du pont du Lèze et les travaux de la piste cyclable qui vont du pont jusqu'au Fescou, ça fait partie de ces autorisations de programme qui ont été accordées. Et dans ce qui est environnement du Lèze, Montferrier a été concerné pour tout ce qui est le nettoiement. Et entre autres, dans ce nettoiement, ça a été le nettoiement du Lèze par le cible et le nettoiement de la Lironde, le retrait des embâcles, etc., etc. Donc voilà, tout ça, ce sont des reliquats, des crédits plutôt, que nous avons acquis depuis 2016 et qui ont été utilisés donc, dans le budget de la métropole.
Merci.
Alors, dernier point. Donc, des habitants en proximité pratiquement de la rivière, au parc de Cobel notamment, et à la Dégèse, ont été informés de la mise en place d'une antenne Bouygues Télécom à Saint-Clément, donc dans le champ où sont positionnés des chevaux. Donc une antenne relais qui ferait 35 mètres de haut, face à la Devèze et au parc de Cobel. Donc c'est la parcelle cadastrée, section BP7 du quartier des Sauces de Saint-Clément-de-Rivière. Donc visiblement, une information a été faite à certains riverains du quartier des Sauces, mais cette implantation va avoir des nuisances, ne serait-ce que visuelles, et puis tout ce que ça peut impacter d'avoir une antenne à cet endroit-là. Pouvez-vous nous dire si vous avez été ne serait-ce qu'informé par la commune de Saint-Clément-de-Rivière, si la population de Montferrier avoisinante a été consultée. Voilà, on se fait le relais d'une inquiétude légitime de cette implantation pour les riverains, donc pollution visuelle et impact sur la santé.
Alors sur les antennes et le positionnement des antennes, les maires n'ont pas pouvoir. Aucun. C'est décidé par les opérateurs ou par TDF, comme nous avons notre antenne à Maillarguez. Les maires n'ont aucun pouvoir. Donc Madame le maire de Saint-Clément et moi-même, nous ne pourrons pas nous opposer à l'arrivée de cette antenne à cet endroit-là. Après, je n'ai pas été informée. C'est-à-dire que la mairie de Saint-Clément n'a pas téléphoné à la mairie de Montferrier en disant « il va y avoir une antenne qui va s'implanter à tel endroit ». Je n'ai pas été informée, mais je vais avoir l'occasion d'en reparler avec Madame le maire de Saint-Clément puisque je dois la rencontrer fin février et donc on échangera sur cette...
Une réunion le mercredi 9 février 19h à la salle Basile à Saint-Clément.
Il y a une réunion sur l'antenne ?
Sur l'antenne.
Voilà. Donc si vous voulez aller écouter...
Mercredi
9 février 19h à la salle Basile à Saint-Clément. Si vous voulez aller écouter ce qu'il dit. Alors je sais qu'il y a un collectif qui s'est monté à Gobel. Moi je pense que le collectif, il faut absolument qu'il continue à faire tout ce qu'il faut pour lutter contre ça. Je pense que ça va être très difficile. Pour nous, communes, un exemple tout simple, l'antenne que nous avons à Maillarguez par exemple. Aujourd'hui, nous avons eu depuis le mois de juin 2021 deux opérateurs qui nous ont contactés pour justement installer la 5G sur l'antenne. Je me suis formellement opposée. C'est fait. Donc voilà, les maires n'ont aucun pouvoir. Aujourd'hui, nous avons Bouygues qui nous sollicite pour justement amener la 5G à l'antenne de Maillarguez avec des travaux au niveau de la route Pioche-Rousse, là où Pioche-Rousse. J'essaie de m'opposer, je n'y arrive pas. Donc je pense que ça va être très compliqué de s'opposer à cette antenne. Après, je pensais moi que cette antenne était directement dans le champ devant Cobel, parce que je voyais les chevaux là pour moi. Bon, j'ai l'impression que la parcelle, c'est un petit peu plus éloigné, c'est plus profond.
C'est la quatrième parcelle. Il y a quatre parcelles avant d'arriver à l'antenne.
Voilà, c'est ça.
Il y a une maison avec un chien.
C'est encore après. Voilà, c'est après la maison au chien. Exactement. Voilà, alors c'est vrai que 35 mètres, on le verra depuis Cobel, hein. c'est évident, hein. Puisque nous on le voit à Maillarguez, on le verra depuis Cobel. Après, rien n'est encore démontré par les équipes scientifiques au niveau des problèmes de santé liés aux antennes. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre.
C'est là où je trouve que la participation citoyenne pourrait être importante. Parce qu'on peut toujours penser que les maires ne peuvent rien faire. On a quand même réussi à arrêter le projet sur la commune de Saint-Clément de Décathlon. Donc peut-être que la participation citoyenne peut aider des maires. Non, mais peut-être qu'elle peut aider des maires, parce que des gens qui se révoltent contre les antennes, il y en a partout. Hein, alors je ne sais pas quels sont les résultats, qu'est-ce que ça donne, mais j'imagine qu'il y a des endroits où il y a des résultats positifs. Et c'est dommage de ne pas justement utiliser cette participation citoyenne qui est certainement aidée à faire avancer ou reculer des projets.
Je pense que ce n'est pas du tout le même cas qu'Oxylane. Là, la 5G, c'est l'avancée du numérique. C'est une société qui avance vers le numérique et vers tout ce que ça apporte, hein, la 5G, avec l'utilisation des ordinateurs, des portables, des tablettes, etc. C'est pas pareil qu'un centre des catégories. Donc je pense qu'après ce coup, enfin, voilà. Mais je serais curieuse de savoir qui va aller à la réunion à Saint-Clément. Et j'aimerais bien que, s'il y en a parmi vous qui y vont, si vous pouvez me faire un petit compte-rendu de cette réunion, ça serait bien. Comme ça, j'aurai ce compte-rendu lorsque je verrai Madame le maire de Saint-Clément et la discussion pourra s'établir. Et ça sera peut-être plus intéressant pour pouvoir peut-être mener une action ensemble si elle est contre. Ben, voilà, ça serait intéressant.
C'est à quelle heure, le 9 février ?
À 19h.
19h.
Mercredi 9 à 19h.
Je vais essayer d'y aller.
Voilà.
Je peux rappeler.
Oui, bien sûr.
Michel, on a regardé vite fait, et alors je te le dis tout de suite parce que je suis juste en face, j'ai regardé. La difficulté avec ces antennes, c'est que l'État, pour favoriser leur implantation, a mis des exceptions à toutes les lois qui existent. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les bâtiments historiques, ce genre de choses, rien ne rentre en compte. Donc, ils ont complètement ouvert le champ des possibles pour les opérateurs pour implanter les antennes.
Je sais qu'il y a une qui arrive au vote.
Alors, il y en a une qui arrive au vote et il y en a une qui arrive aussi à Saint-Clément sur les collines, le lotissement des collines.
Deux à Saint-Clément.
Et au vote, apparemment, en toute proximité d'une propriété, vraiment à côté.
Sur
des terrains privés.
Mais qui sont rachetés.
Oui.
TDF rachète les terrains pour implanter. La plupart du temps, ils préfèrent être propriétaires pour implanter leurs antennes plutôt que de payer une location. Ça se faisait il y a de nombreuses années. Maintenant, ils préfèrent être propriétaires des terrains pour y faire après ce qu'ils veulent.
Il n'y a même pas besoin d'autorisation d'urbanisme pour les construire si on respecte, si on est en dessous d'un certain seuil de 12 mètres carrés de bétonnage, je crois. Tout est fait pour favoriser le déploiement.
Voilà. D'autres questions, non ? Merci. Le conseil est terminé. Il est 21h15. Je vous remercie.